Grand 5, conduction de l'influx nerveux, 1, vitesse de conduction. Le calcul de la vitesse de conduction se fait en plaçant d'abord les électrodes réceptrices à une distance D1 des électrodes excitatrices, puis on enregistre le potentiel d'action. Ensuite, les électrodes réceptrices sont déplacées à une distance D2, supérieure ou inférieure à D1, puis un 2, notre potentiel d'action, est enregistré. La superposition des deux potentiels d'action de telle sorte que les artefacts coïncident permet de déterminer le temps parcouru par l'influx nerveux pour parcourir la distance RD Asaki D2, D1. La vitesse de conduction MS se calcule à partir de la formule 2. Différents types de conduction 2-1. Dans une fibre amyélinisée, l'excitation de la fibre nerveuse en un point entraîne un changement de charge. L'extérieur devient négatif et l'intérieur positif. Ce changement de charge se propage le long de la fibre nerveuse de proche en proche. C'est la théorie des courants locaux. Après son passage, la fibre retrouve sa polarité normale. Lors de son déplacement le long de la fibre, le changement de charge arrive au niveau de l'électrode réceptrice R1, rattachée à la plaque horizontale du bas, qui devient négatif et repousse le faisceau d'électrons vers le haut. C'est la dépolarisation. L'électrode étant redevenue positive, le faisceau d'électrons est attiré vers le bas. C'est la repolarisation 2-2 dans une fibre myélinisée. La gaine de myéline constitue un isolant. Il ne peut y avoir de courants locaux. Les dépolarisations et les repolarisations se font donc d'un nœud de Ranvier à l'autre. C'est la théorie de la conduction saltatoire. Trois facteurs faisant varier la vitesse de conduction, ce sont généralement le diamètre de la fibre. La vitesse conduction est plus élevée chez les fibres à diamètre élevé. La température, 18 degrés pour la grenouille, 37 degrés pour les mammifères. La nature de la fibre, existence ou non de myéline. L'espèce, mammifère et grenouille. Le pH neutre entraîne une perturbation de la vitesse. Grand 5, notion de synapse. L'observation de cette coupe montre que les neurones sont reliés les uns aux autres. En fait, ces neurones ne sont pas en continuité entre eux, mais sont en contact à travers leur terminaison nerveuse, leur soma ou leur dendrite. Cette jonction entre deux neurones est appelée synapse. En fonction des parties en contact au niveau de la synapse, on distingue les synapses axodendritiques, entre axones d'un neurone A avec les dendrites d'un neurone B. Les synapses axosomatiques, entre axones d'un neurone A avec le soma d'un neurone B. Les synapses axoanoxiques, entre axones d'un neurone A avec l'axone d'un neurone B. La plaque motrice, qui est une synapse entre l'axone d'un neurone et d'un muscle. Deux transmissions synaptiques. Lorsque l'influx nerveux arrive au niveau du bouton synaptique du neurone présynaptique, il se produit une forte entrée d'ion Ca2+, dans le neurone présynaptique, entraînant une ouverture par exocytose d'un grand nombre de vésicules du neurone présynaptique qui libèrent ainsi l'acétylcholine, neurotransmetteur, dans la fente synaptique. L'acétylcholine agit directement sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, qui sont les canaux ANA+ chimiodépendants, qui laissent entrer de façon massive les NA+, ce qui provoque une dépolarisation de la membrane, donnant lieu à la propagation de l'influx nerveux. L'acétylcholine est ainsi appelée neurotransmetteur médiateur chimique. Après la dépolarisation, l'acétylcholine stérase inactive l'acétylcholine en le dissociant et la choline issue de cette dissociation est reprise par le bouton présynaptique pour régénérer à nouveau de l'acétylcholine. Ce phénomène requiert un temps qui provoque un retard dans la propagation de l'influx nerveux. Ce temps est le délai synaptique. La transmission de l'influx nerveux nécessite de l'énergie, cause pour laquelle il y a la présence de mitochondries dans le bouton synaptique. Remarque, la présence de vésicules uniquement dans le bouton synaptique imprime à l'influx nerveux une direction unique dans les conditions physiologiques, c'est la polarité physiologique de la synapse. Donc, la propagation de l'influx nerveux est univoque, bouton terminal vers corps cellulaire. Au niveau des centres nerveux, les neurones sont reliés entre eux par des multitudes de synapses, mais toutes les synapses n'ont pas les mêmes effets. On distingue des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices. Les synapses excitatrices, le neurotransmetteur, acétylcholine, noradrénaline, dopamine, sérotonine, entraînent l'ouverture des canaux ANA+, et provoquent une dépolarisation de la membrane du neurone postsynaptique. Lorsque la quantité de neurotransmetteurs libérés est suffisante et permet d'atteindre le seuil d'intensité, il se forme au niveau de l'oscilloscope un potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, qui produit un potentiel d'action le long de la fibre postsynaptique. Les synapses inhibitrices, le neurotransmetteur, ex-GABA, entraînent l'ouverture de canaux ACL, provoquant leur entrée dans la membrane du neurone postsynaptique, ce qui provoque une hyperpolarisation de la membrane du neurone postsynaptique, correspondant à un potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI, qui ne provoque pas la naissance d'un potentiel d'action. Trois rôles intégrateurs des synapses. On peut avoir deux principes fondamentaux. Quand l'activité d'un neurone postsynaptique est influencée par celle de plusieurs neurones présynaptiques, c'est le principe de convergence. Quand l'activité d'un neurone présynaptique influence celle de plusieurs neurones postsynaptiques, c'est le principe de divergence. Les neurones postsynaptiques jouent un rôle intégrateur des messages nerveux afférents. Il se produit dans leur corps cellulaire un potentiel postsynaptique global, qui est la somme algébrique des dépolarisations, PPSE, et des hyperpolarisations, PPSI, des synapses excitatrices et inhibitrices, c'est la sommation,